Saluton al ciui, bonvenon en la mondo de Esperanto, ĉe Radio Bartas.
Saluton! Nous sommes tous très heureux de vous retrouver pour l'émission Esperanto Lando d'avril sur Radio Bartas 107.fm. Aujourd'hui, autour des micros,
Françoise,
Marc,
Francis,
Monique
et Monique. Au cours de l'émission précédente, nous avions abordé le thème « En quoi l'espéranto pourrait améliorer la communication entre les personnes et les peuples de langues différentes ?» Il nous a semblé à tous important dans l'émission d'aujourd'hui d'expliquer la construction même de l'espéranto. Alors, fondée sur une grammaire régulière, sans exception, l'espéranto est une langue agglutinante où les mots se forment à partir de racines lexicales et d'affixes. Ces racines sont invariables. L'espéranto possède 28 phonèmes, 5 voyelles, 23 consonnes. Chaque phonème est prononcé. L'accent tonique étant toujours situé sur l'avant-dernière syllabe des mots. L'ordre des mots étant libre, une même phrase peut se formuler de multiples façons et malgré tout être comprise. Marc, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça.
Oui, tout à fait. Alors, on peut partir d'un mot. Par exemple, on va partir du mot mouton en espéranto. Alors, comment est-ce qu'on dit mouton en espéranto ?
Chafo.
Chafo, ok. Donc ça termine par un O parce que c'est un nom commun. Pour dire le mal du mouton en français, comment est-ce qu'on va dire, par exemple ?
Vir, chafo.
Voilà, et en français ?
Le bélier.
Le bélier, voilà. Donc pour mettre au masculin, on rajoute l'affixe donc qui est vir, la marque du masculin. Pour dire la femelle du bélier en français, comment est-ce qu'on va dire, par exemple ?
La brebis.
La brebis, voilà. Et bien en espéranto, on va rajouter un suffixe à la fin. Qui est in et qui est donc la marque du féminin, donc ça va faire chafino, par exemple. Voilà, donc on a vu mouton chafo, le bélier vir chafo, la brebis chafino, voilà, tout formé à partir de la même racine chafo. Alors par exemple, un petit peu plus compliqué, si on prend la personne qui mène les moutons, comment est-ce qu'on va l'appeler en français ?
En français, c'est un berger.
Voilà. Et alors, le berger en espéranto, ça va se dire chafisto. Voilà, donc on récupère toujours chaf, on rajoute ist à la fin, puisque c'est le suffixe qui correspond au métier, hein, c'est bien ça. Et puis, on rajoute le o pour dire que c'est un nom commun. Donc, chafisto. Un dernier exemple, peut-être, comment on va dire le groupe de moutons en français ?
Le
troupeau.
Voilà, le troupeau. Et bah, en espéranto, on prend toujours chaf, on rajoute ar pour faire le suffixe qui correspond voilà, au groupe, au regroupement. Et puis le o pour la fin, donc ça fait chafaro, le troupeau. Voilà, chafo le mouton, vir chafo le bélier, chafino la brebis, chafisto le berger, chafaro le troupeau. Ça dérive tout en fait de la même racine, alors que quand on regarde en français, ça fait mouton, bélier, brebis, berger, troupeau. Il n'y a pas vraiment de base commune entre les mots. Voilà, donc ça, c'est un des gros aspects pratiques de l'espéranto. On pourrait en faire beaucoup d'autres. Hein. On pourrait faire l'agneau, chafido, par exemple. On pourrait faire la bergerie, le lieu des moutons, donc chafeio. On pourrait faire même la viande de mouton, chafajo. Et puis, on pourrait même faire des mots qui n'existent pas en français. Par exemple, si on veut faire un adverbe à partir du mouton, on pourra dire chafé. Un adverbe
moutonnement.
En français. Voilà.
Moutonnement. À la manière du mouton.
À la manière du mouton.
On pourrait faire un adjectif. Ça ferait chafa. Donc on rajoute un A à la fin. Donc ça, pareil, ça n'existe pas en français.
Oui, mais tout le monde va comprendre ce que ça veut dire, un adjectif du mouton.
Voilà, par exemple, quelqu'un qui...
Bah, qui suit bêtement,
ouais,
non
qui fait
je
mouton,
m'avance un peu en disant ça.
On pourrait l'interpréter comme ça. Et puis on pourrait même faire un verbe. Chafi, par exemple. Donc le verbe moutonner, en quelque sorte. Voilà, un exemple à partir du mot chafaud, à partir du mouton, de la diversité incroyable de mots qu'on peut faire en espéranto. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très pratique, puisque à partir d'une racine, on peut faire n'importe quel mot en espéranto, ce qui n'est pas forcément vrai en français.
Juste et équitable, c'est ce qu'on disait dans les dernières émissions.
Et qui va s'appliquer à tous les animaux. de la même manière.
Oui, à toutes les racines de la même manière. Exactement. Et donc à ce sujet d'ailleurs, l'espéranto est régi par une académie d'espéranto. Un premier comité linguistique a été fondé en 1905 lors du premier congrès mondial d'espéranto à Boulogne-sur-Mer. Et suite à ça, ce comité, en 1948, est devenu l'Académie d'espéranto. C'est une institution linguistique indépendante dont le rôle est d'aider à la conservation des principes fondamentaux de l'espéranto et de contrôler son évolution. L'Académie d'espéranto compte une quarantaine de membres élus pour 9 ans. Une de leurs tâches, c'est de rédiger un dictionnaire d'espéranto. Ce vocabulaire de l'espéranto comprenait une centaine de radicaux en 1905. En 2002, ce dictionnaire espérantiste en compte 16 780. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, d'après l'exemple, comme disait, a expliqué Marc, l'espéranto, effectivement, c'est une langue juste, équitable et évolutive. Donc des mots désignant des réalités culturelles spécifiques qui proviennent même de langues différentes comme le japonais, le sanskrit, le chinois, enfin plein d'autres, on peut trouver d'autres exemples, ou des termes professionnels très spécifiques comme en informatique, en médecine, ont été proposés et acceptés par l'Académie, continuent à être proposés et acceptés par l'Académie. Par exemple, Monique ou Francis, vous pourriez nous donner l'exemple de nouveaux mots comme en informatique.
Oui, en informatique, computer est devenu computer.
C'est dans les termes techniques qu'on trouve le plus de nouveautés, évidemment. Soit la construction, dans n'importe quelle science. Il fallait trouver d'autres noms qui n'existaient pas du temps de Zamenhof, bien sûr.
Et donc c'est équitable puisque n'importe quelle minorité peut proposer un mot qui appartient à sa culture propre. Donc n'importe quelle minorité, même de gens, très peu de gens qui parlent une langue, qui ont peut-être des plats différents, des arbres différents, des cultures différentes, peuvent proposer un mot et qui sera forcément compris par tout le monde. Et alors Françoise, tu vas nous parler parce que sur Internet, évidemment, il y a une version Internet de Wikipédia.
Oui, Wikipédia qui en espéranto se dirait Wikipédio et a été créé en novembre 2001 et par un espérantophone américain, Chuck Smith. Et actuellement, il a été franchi le cap des 50 000 articles. En 2006, il y en avait déjà 100 000. En 2008, il y en avait 150 000. Et il s'agit effectivement de la plus grande, le plus grand site où on trouve des articles par ces langues construites, que l'on dit construites. Actuellement, sur Wikipédia, on compte 165 articles qui sont qualifiés El Stara Articolo et 126 articles bons, les Genda Articolo. Il faut ajouter à cela que Wikipédia est une encyclopédie collaborative rédigée par des lecteurs, tous bénévoles, et les créateurs d'un article, ils sont possibles, mais suivant les conditions du site. La croissance de Wikipédia a été favorisée à plusieurs reprises par la création d'articles de géographie qui a permis effectivement, comme les villes d'Allemagne, les communes d'Italie et les villes du Brésil et bien d'autres lieux. Nous voyons bien que dans ce mécanisme-là, le but de Wikipédia est de regrouper, de reclasser et de permettre à tout le monde un accès facile par rapport à tous ces textes. Voilà.
On va revenir un petit peu là-dessus, mais maintenant, parole à Francis qui va nous présenter la musique du mois.
Ah. Eh bien, ce mois-ci, nous avons choisi paroles et musique en espéranto par l'Italien Emmanuel Rover. Alors, en voici le résumé avant d'écouter sa chanson. Autrefois, j'ai eu une amie de cœur au-delà du rideau de fer. Nous avons correspondu avec plaisir durant plusieurs années. Un grand amour est né. Pour un débutant, c'était le bon moyen d'apprendre la langue internationale espéranto. Lors du congrès universel dans son pays, nous nous sommes enfin rencontrés. Entre parenthèses, il énumère tous les faits agréables dont il se souvient avec beaucoup de poésie. Fermez la parenthèse. Nous avons continué à correspondre. J'ai rêvé du moment où tomberait le rideau de fer, où nous pourrions nous rencontrer et vivre ensemble sans barrière. Le mur est tombé, mais elle ne m'aime plus. Tout le monde fait la fête à Berlin, mais mon cœur saigne devant le naufrage de notre amour. Le goût de ses doux baisers me rappelleront toujours mon amour perdu.
Mi forgesas guston kaj parfumon de ilia bonage. Memoras mi nur la poezion el la verdage kaj la fojon kiam demetis ŝi la ĉemizon. Per letere flugis varma sento. Revis ni che venos la momento, chiam falos la fer curteno revivos libero, cai sen bare povos ni rencontigi, cai ciam resti cune. Falas la mureg, set si plu ne amas min, granda festo por ciui, ne por mi en Berlin. La tuta mondo gioias celebras la tuta homaro. Sangas mia cor, collectas ruinajoin de nia amo. Falis la amo, scia santempe cum la mureg. Ciu povas forblovi cion del liber la venteg el virina cor. Collectas mi ruinajoin. Thank you. ambition de l'hiver, la venteg, Elvirina cor. Collectas mi ruinajoin. Amicino cascita la gusto de scia i dolce i suoi sen fin memorios min primia amo perdita chi e non estas più con amichino cascita la gusto de scia i dolce.
Alors l'espéranto ne sera bien sûr jamais la langue officielle d'un pays. Cependant, l'espéranto a quand même été adopté par beaucoup d'associations à but non lucratif. Monique, dis-nous un petit peu tout ça.
Il existe énormément d'associations en espéranto, des associations locales, nationales et internationales. Parmi les associations internationales, la plus importante s'appelle UEA, c'est-à-dire Universal Esperantista Asocio. C'est elle qui organise, par exemple, les congrès internationaux. Dans la chanson, on parlait tout à l'heure. Chaque année, elle organise un congrès dans un pays différent. Depuis 1905, depuis le congrès à Boulogne, sauf pendant les années de guerre. Donc l'année prochaine, ce sera le 100e congrès.
Et ce congrès aura lieu où ?
L'année prochaine, il aura lieu en France, comme le premier congrès. L'année dernière, c'était en Islande, petit pays d'environ 300 000 personnes seulement, ce qui prouve qu'il y avait tout de même un nombre assez important d'espérantistes pour aider UEA à organiser et préparer ce congrès.
Et alors, ces congrès mondiaux représentent à peu près combien de participants ?
Oh, c'est très variable. En général, il y a beaucoup plus de participants quand le congrès a lieu en Europe que par exemple en Australie.
Je sais que pour le congrès de 2015 à Lille, on parlait d'attendre à peu près 3000 personnes, ce qui représente forcément, même en termes économiques, des retombées importantes. Il faut quand même loger 3000 personnes, les nourrir. Oui. Donc ça peut être aussi économiquement intéressant pour une ville.
C'était le cas du congrès à Montpellier en 1998, environ 3000 personnes.
Et ces congrès se passent alors comment ? Puisque vous y êtes allés, Monique et Francis, parlez-nous un petit peu de ça.
Alors, comment ça se passe ? Il y a toutes sortes de programmes. Il y a des conférences. Ça, c'est l'aspect sérieux. Il y a bien sûr les assemblées générales des associations qui sont présentes. Et puis, il y a bien sûr un spectacle. Il y a bien sûr des spectacles, par exemple, de musique, de théâtre, de chansons.
Bon, dans cet aspect un peu moins sérieux, j'imagine que les gens se rencontrent. Francis, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, on a oublié de dire que ces congrès ont une durée d'une semaine environ.
J'allais le dire.
Ah, voilà, tu allais le dire. Ben voilà, mais c'est dit maintenant. Donc, ces congrès durent environ une semaine. 3000 personnes sont là pour être sérieuses et j'imagine le soir être moins sérieuses. Donc, on rencontre des gens qui viennent de tous les pays, j'imagine aussi.
Je pense aussi que beaucoup de gens y vont essentiellement pour rencontrer des espérantistes qu'ils ont déjà rencontrés dans d'autres congrès. Et donc, on bavarde beaucoup, on parle beaucoup pendant ces congrès. On s'amuse beaucoup aussi. Il y a aussi des balles. Et puis, il y a aussi des excursions organisées dans le pays en question. Ça permet de connaître ce pays par les gens qui sont vraiment du pays, qui savent beaucoup de choses.
Marc, tu voulais intervenir ?
Et alors, petite question, en termes d'âge, qu'est-ce que ça donne ? Il y a des jeunes dans ces congrès ?
Oui, il y a des jeunes. Il y a d'ailleurs des associations de jeunes, des associations internationales de jeunes, bien sûr.
Moi, je voulais juste préciser... Pardon.
Il y a aussi des enfants. Donc, oui. En général, c'est à la fin du congrès que le groupe des enfants nous chante quelque chose sur scène. Et puis alors, bien sûr, il y a aussi YEFO, le groupe des jeunes, des adolescents, qui se réunissent en dehors, mais en général dans une ville assez proche, et qui viennent à un moment donné faire quelque chose, faire une présentation. Donc il y en a pour tous les âges, mais ça va jusqu'à plus de 90 ans.
Et pour répondre à ta question, Marc, depuis l'an 2000 et depuis Internet, l'espéranto, effectivement, il y a quand même un renouveau dans des gens qui ont envie d'apprendre l'espéranto. Donc, à la fois parce qu'il y a tous les réseaux sociaux, des gens de tous les pays qui sont intéressés par communiquer directement. Les dictatures n'aiment pas trop les réseaux sociaux, les dictatures n'aiment pas trop que les gens communiquent entre eux. Francis, tu voulais intervenir en parlant justement de dictature et d'espéranto. Il y a quelque chose de très intéressant et de très positif.
Et oui, j'ai appris cette année qu'en Iran, il y aura pour la première fois, le premier congrès espérantiste iranien. C'est quand même une ouverture et c'est quelque chose de très important pour un pays aussi vaste. Et puis, il y a un petit pays, l'Uruguay, qui va aussi avoir son premier congrès national d'espéranto.
Oui, je voudrais parler aussi du progrès de l'espéranto en Afrique. Et je voudrais aussi dire que l'association OUEA consacre pas mal d'argent et les efforts de nombreux espérantistes pour soutenir l'espéranto en Afrique. Et cet espéranto en Afrique se développe bien. Malheureusement, dans la plupart des congrès internationaux, les Africains ne peuvent pas être présents à cause de difficultés pour obtenir un visa, un passeport. Mmh. C'est dommage.
Cette association mondiale, d'ailleurs, d'espéranto, est en relation officielle avec l'ONU et l'UNESCO dans un rôle consultatif. L'UNESCO a plusieurs fois adopté des recommandations en faveur de l'espéranto. Lesquelles n'ont jamais été suivies d'effet. Là, on pourrait peut-être, c'est pas la faute vraiment de l'espéranto, c'est sans doute des volontés politiques. On aura le temps d'en parler peut-être dans une autre émission. On développera ça dans une autre émission. Mais Monique, ça serait intéressant que tu nous dises aussi le nombre d'associations et les associations très différentes qui ont choisi l'espéranto comme langue officielle.
Le nombre, c'est vraiment impossible parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux donner le nom de quelques associations qui dépendent de l'association internationale OUEA. Il y a des associations scientifiques, des associations de loisirs, de sport. Il y a par exemple une association importante qui est celle dite des fervoïstes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les chemins de fer. Ça depuis le début, cette association. D'autres sont beaucoup plus récentes. Récemment a été créée l'association de numismatique. Il y a des associations de religions aussi, toutes sortes de religions d'ailleurs, des religions dont vous n'aurez peut-être jamais entendu parler, comme l'ouamboulisme, qui est une religion bouddhiste en Corée du Sud. Il y a des associations assez amusantes, comme une qui s'appelle Kato Amanto, c'est-à-dire amoureux des chants. Et puis, certaines sont plus importantes que d'autres, bien sûr.
Oui, il y a une association, moi je tenais quand même à dire ça, qu'il y avait une association.
Ah oui, il y a même une association d'homosexuels, oui.
Oui, oui, donc ils peuvent communiquer, Françoise ?
Il y a également une association, ce qu'on appellerait les organismes qui n'ont pas tellement d'associatifs, mais des organismes humanitaires ou écologiques qui utilisent l'espéranto parce que ce sont des gens qui sont tenus à partir dans différents pays et qu'à ce moment-là, l'espéranto est leur moyen de communication avec ces peuples différents.
À propos de l'association d'homosexuels, j'ai appris qu'il y a énormément de jeunes homosexuels des pays de l'Est qui sont devenus espérantistes parce que pour eux, c'est un milieu qui est très tolérant.
C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Les dictatures n'aiment pas beaucoup les différences. Suite à tout ce qu'on vient de dire, que l'espéranto est une langue juste, équitable et qui permet aux gens de se rencontrer directement, Monique et Francis, vous allez nous parler de Clara, qui est une jeune russe qui va être accueillie une semaine en Lozère.
Oui, elle sera ici à partir de dimanche 20.
Et nous avons préparé hier des manifestations pour elle, pour l'accueillir. En particulier, il y aura amende.
Oui, alors il faut noter qu'une soirée sur l'espéranto en présence de notre ami russe Cléra aura lieu le mercredi 23 avril 2014, salle des associations numéro 2, amende, place du Foirail, sous la bibliothèque, de 16h45 à 19h30. Qu'on se le dise.
Nous avons fait connaissance avec Cléra il y a une dizaine de jours. Elle est jeune, elle n'a que 20 ans. Elle est étudiante en linguistique à Moscou. Et la Fédération des espérantistes du Languedoc-Roussillon l'ont invitée à venir passer 5 semaines en France. En ce moment, elle est à Montpellier. La semaine d'avant, elle était à Nîmes. Donc, elle visite tout ce qui est à visiter dans le secteur. Et puis, elle fait des conférences. Elle fait des conférences en espéranto qui sont traduites en français par un espérantiste.
Nous vous attendons donc, Amande. En attendant, j'espère qu'on vous a donné l'envie d'apprendre l'espéranto. Marc, dis-nous comment apprendre l'espéranto en Lozère. Où apprendre l'espéranto en Lozère?
Alors, pour apprendre l'espéranto en Lozère, vous avez plusieurs solutions. Pour le parler de visu et puis retrouver des gens qui pratiquent l'espéranto, ce qui est quand même le plus convivial et puis le plus pratique pour apprendre l'espéranto, vous avez le choix entre le groupe de Mende ou le groupe de Florac, donc qui se réunissent régulièrement pour apprendre l'espéranto, puis qui passent aussi des petits moments conviviaux. Pardon. Hier, on était tous ensemble réunis à Mende, par exemple, ça s'est fini par un bon repas, voilà. Très, très sympa.
En alternance, un mercredi sur deux à Florac, un mercredi sur deux à Mende.
Et puis, très important aussi, vous pouvez vous abonner à la revue Esperanto Info, qui paraît une fois tous les 2 mois, voilà, et qui est éditée en Lozère, voilà, petite spécificité lozérienne, sur le Cosmégen. Voilà, chaque 2 mois, il y a des thèmes particuliers, et puis beaucoup de contributions d'espérantistes de partout en France et dans le monde.
Tous les contacts sur le site radiobartas.net. Nous vous rappelons que l'émission est diffusée sur Radio Bartas une semaine le mercredi à 17h, la semaine d'après le samedi à 10h. Prochain rendez-vous au mois de mai. Gisrevido.
Non valer tanto y el porvi. Non valer tanto y el porvi. Gramatica sed ne tro dica, no valer tanto y el porvi. Hey.